Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'équipage de la rue Mingol, un voilier de 1945 de 22 mètres de long, en bois, un vieux gréement, anciennement utilisé pour le transport et aujourd'hui géré par une association qui l'a entièrement rénové. Et ce bateau aujourd'hui est dédié à la balade, à la croisière et au spectacle vivant. À la manœuvre de ce bateau, trois femmes marins, donc deux matelots, un capitaine. Il y a peut-être d'autres. L'équipage est au complet, non ? Pas forcément. Si ?
Si, si, si.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est peut-être de voir comment on arrive dans ce boulot, comment vous les avez recrutés, si c'est vous qui avez recruté, pourquoi et comment vous avez, enfin comment chacun d'ailleurs a décidé à un moment de devenir matelot, quelle formation est nécessaire et quel parcours.
Moi, j'ai commencé mes saisons sur Notre-Dame de Rue Mingol. Ça, c'est la troisième saison.
C'est ça ?
Ouais. Ouais, voilà, c'est des saisons de 6 mois à peu près sur ce bateau-là. Donc comment on arrive à être matelot sur un vieux gréement ? Bon, ça faisait quand même plusieurs années que je faisais différentes expériences, que ce soit associative. Il y avait des festivals itinérants à la voile aussi, on était déjà sur un tonnier, avec des amis qui avaient aussi des vieux gréements.
Comme un touriste, enfin, ou comme un amateur ?
Bah, c'est ça, là, il n'y avait pas besoin de diplôme. C'était des organisations de collectifs où on créait dans nos événements, quoi, finalement. Donc, dans ce cas-là, on nous avait confié un vieux grément et sur lequel on pouvait faire un festival pendant 2 mois en Méditerranée, par exemple. Et après, bah, il y a eu tout type d'expériences. Et puis, finalement, j'ai décidé de passer le matelot pour en faire vraiment un métier. Et c'est sûr que moi, c'est toujours la voile et les vieux gréements qui m'ont intéressé. Donc c'est direct, j'ai été postulé pour travailler sur des vieux gréements.
Vous avez fait une formation particulière ?
Alors, le diplôme de matelot, c'est assez simple. Hein. C'est un diplôme en 3 mois qui se passe dans... Il y a plein de villes où on peut le passer. Et c'est, bah après, on apprend différentes choses, quoi, que ce soit les manœuvres, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est signaux, signalisation. Donc voilà, en 3 mois, en fait, on peut sortir avec un diplôme de matelot.
Vous pourriez être matelot sur un cargo ou sur un bateau de pêche, je ne sais pas.
C'est ça, c'est le même diplôme, ouais.
Alors maintenant, on va poser la question...
À Camille.
Eh ben moi, un petit peu comme Gwen, j'ai commencé mes expériences maritimes par des milieux associatifs, donc où je naviguais déjà sur vieux gréement, mais sans diplôme, où j'ai fait plus de mécanique que de travail de matelot à bord.
Vous savez réparer un moteur ?
Je sais réparer un moteur, c'est un grand mot. Je sais me dépatouiller avec ce que j'ai appris. Au fur et à mesure de ma vie. Voilà, et du coup, ces quelques années où j'ai travaillé sur les bateaux m'ont donné envie de me professionnaliser là-dedans, donc de passer le CMP.
CMP, qui veut dire ?
Certificat de matelot de pont. Et pour me professionnaliser et pour pouvoir rester dans ce milieu-là, voilà, du vieux gréement et de la voile. Et pareil, moi, c'est le travail à la voile qui m'intéresse, donc même si oui, j'ai un diplôme sur lequel, avec lequel je peux travailler sur des cargos, je ne dis pas que je ne le ferai jamais, peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, là, aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce qui m'intéresse. Quoi.
Et vous, Inès, alors, qu'est-ce qui vous a amené, d'une part, à être, non pas matelot, mais capitaine, au marin, et puis capitaine ?
Moi, du coup, j'ai passé une formation directement de capitaine de 100 voiles. À l'époque où moi je l'ai passé, on pouvait passer le diplôme directement de capitaine. Aujourd'hui, on est obligé de faire le diplôme de matelot et après le diplôme de capitaine, avec des temps de validation. Moi, à l'époque, il y avait des tests d'entrée, on passait directement le diplôme de capitaine. Et ensuite, on avait un an en mer, embarqué, en tant que matelot. Et après ces un an, on avait le droit d'être capitaine.
Après... Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager là-dedans ?
Moi, j'ai toujours fait de la voile depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé ça. Et puis, voilà, à un moment donné, je me suis dit que ça pouvait être un vrai métier. C'était pas seulement pour le plaisir. Donc, j'ai passé mon diplôme. Après, j'ai eu beaucoup d'expérience d'abord, du coup, en tant que matelote. J'ai fait que des expériences, en fait, sur des vieux gréements. C'était que ça qui m'intéressait. Que sur des voiliers. Enfin oui, pas forcément que des vieux gréements, en tout cas que des voiliers. J'ai eu aussi des bateaux qui étaient pas forcément vieux gréements, qui étaient assez anciens, mais voilà, en tout cas que sur des voiliers. Et puis l'association Antest, donc qui a à la fois Notre-Dame de Rumingol et la Bergère de Don Rémy. C'est une association que je connais depuis plusieurs années, où du coup j'ai navigué avec la Bergère... de Don Rémy plusieurs fois ces dernières années et Notre-Dame de Rumingol, voilà, j'ai eu l'occasion de naviguer dessus. Et à un moment donné, en fait, moi j'ai travaillé beaucoup un peu autour du monde, faire plutôt des grandes traversées. Et puis voilà, là ces derniers temps, j'avais envie de revenir en Bretagne, donc j'ai postulé pour être capitaine sur Rumingol.
Est-ce que vous pourriez décrire le travail? D'abord, peut-être on va faire le tour du bateau. Et on va présenter déjà l'endroit où nous sommes, là, maintenant. Quelqu'un le présente
Là, on est dans la cale du bateau. Donc, c'était la cale où anciennement, principalement, ce bateau, il a transporté du sable. Donc, aujourd'hui, il y a des bannettes le long des membrures, le long du bateau, de la coque du bateau. À l'époque, il y avait absolument pas d'aménagement. Donc là, voilà, on se retrouve dans la cale qui est restée quand même avec un bel espace, ouais.
Oui, il fait quoi, 3 mètres de haut, de plafond, 4 mètres peut-être, ouais, 4 mètres de large, 6,50, ouais, ouais. Donc tout est en bois, évidemment, et il faut imaginer des alvéoles, qui sont des bannettes, donc, où les gens, les passagers, peuvent dormir. Ça, c'est pour cette pièce. On va passer peut-être sur l'avant, là. Enfin, je vous suis.
Donc après la cale, si on avance du coup plus vers l'avant du bateau, on a la cuisine. Donc voilà, avec six feux, on a un four, un frigo, c'est comme à la maison.
Oui, il y a un évier, il y a le four, il y a le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dans un espace même qui laisse la place à deux personnes pour travailler peut-être.
Oui. Et puis après on arrive... On est habitué à jongler. Pardon, je vais prendre de l'eau.
Oui, j'imagine. Voilà. Ouais. Comme sur tous les bateaux. Et un peu plus
si
devant.
Si on avance encore, il y a quatre autres bannettes. Donc, bannettes, c'est les couchages.
Là, c'est l'équipage.
Non, c'est aussi pour les passagers qui viennent à bord. Nous, l'équipage, on est en dessous de la timonerie où il y a la barre. Là, on peut sortir
on
par
On peut monter, oui. Donc là, on monte une échelle bleue, dans un bateau bleu. Et on va arriver en plein jour. Donc là, il y a un bateau qui manœuvre, on l'entend, qui transporte des gens à l'autre côté de la presqu'île. Donc.
Voilà, bah alors là, on est à l'avant du bateau. Donc là, derrière toi, il y a ce qu'on appelle le guindeau. C'est ce qui permet pour nous de remonter l'ancre.
Ah oui, quelle machine!
Donc nous, ouais, c'est manuel. Il y a deux grosses manivelles de chaque côté et on met deux personnes par manivelle.
Des passagers ou vous?
Les passagers, c'est un bateau où les passagères participent. Donc dans tous les cas, c'est vrai que ça nous est jamais arrivé que personne n'a envie de participer. Plutôt les gens, c'est plutôt ils ont envie de vivre une expérience, de venir partager c'est quoi le... de naviguer sur un vieux gréement, c'est quoi les manœuvres, donc on a souvent plutôt des gens motivés.
Ouais, donc c'est une espèce de gros roue denté avec une énorme chaîne en dessous de large de combien de 18, je sais pas. Et donc après l'autre côté, alors l'autre côté il y a le bateau dans toute sa longueur.
Oui, donc alors devant on n'a pas dit, mais là il y a le bout dehors qui est relevé, mais quand on est en navigation le bout dehors est à l'horizontale. Donc en plus des 22 mètres, on a encore 6 mètres.
Et lui là-dessus on grée le foc, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et au pied d'un mât là, donc c'est le grand mât.
Oui, donc on a le grand mât et puis derrière la timonerie, derrière où on barre, où on pilote le bateau, on va dire, il y a le mât du dindé.
Alors la timonerie, il faut imaginer, enfin, moi j'imagine une cabine de bateau de pêche d'autrefois, c'est ça?
Oui, ça pourrait être ça un peu, même si ce bateau n'a jamais fait de pêche, mais oui.
Oui, pour vous donner une idée, je vois les cordages disposés en beau cercle, tout est bien rangé.
Oui, on essaye que le bateau soit propre et bien rangé, même si ça reste quand même un bateau qui a été un bateau de travail. Et aujourd'hui, moi, je trouve que le bateau, il garde aussi cet esprit-là. Globalement, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a été changé. Il reste quand même comme à l'origine.
Oui, je vois aussi des bips, des radeaux de survie. Vous en avez trois, donc pour...
Oui, on a des radeaux de survie, c'est pour la sécurité, au cas où il y a un problème, on est obligé...
Ouais, c'est le règlement.
Voilà.
On va s'avancer vers la timonerie.
Oui, il faut imaginer que là-dessous, il y a le moteur. Donc on descend par là.
D'accord, ça sent... Alors on en ouvre la trappe, ça sent immédiatement le gasoil, même s'il est en bon état. Oui, c'est une grosse... c'est une salle des machines, quoi.
Oui, et nous sur ce bateau, c'est pas un démarrage avec une clé qu'on tourne et ça démarre. Il faut aller en salle machine et c'est un démarrage à air comprimé.
D'accord.
Avec des bouteilles.
Des bouteilles à air comprimé.
Enfin, c'est des bouteilles qui ont de l'air et ça démarre le moteur, quoi. On cale le moteur pour qu'il débarre au bon moment de la compression et on envoie de l'air et ça démarre le moteur. C'est vraiment ce qui est le plus basique. Avant, en fait, c'était ça, hein, les démarrages.
D'accord, je sais pas.
Il n'y avait pas. Ouais.
Okay.
Donc voilà, même si on a des problèmes de batterie, le moteur démarre toujours, quoi. C'est aussi l'avantage.
C'est bien, ouais. Je vois des outils aussi, donc vous êtes capable dans l'équipage de parer à une panne en mer.
Oui, on a des outils de quoi réparer un peu. Après, des gros soucis, on n'a pas forcément, mais on a tout, quoi. Des clés plates, un marteau, un pied de biche.
Ça avait réamorcé un moteur diesel, j'imagine.
Oui, voilà, aussi.
Donc la timonerie, donc c'est l'endroit où il y a la barre.
Oui.
Et oui, moi je vois un vieux bateau de pêche avec une carte, donc la carte de la rade, évidemment.
Oui, oui, en ce moment, on va être dans la rade pour le mois de juillet.
Et là, on embrasse tout le bateau qui est magnifique.
Faut imaginer que quand il était très chargé, finalement, il était encore plus enfoncé dans l'eau. J'imagine qu'il avait une meilleure vue à l'avant, parce qu'il y a quand même un peu à l'avant où on ne voit pas trop. Mmh. Et j'imagine que quand il était vraiment très très chargé, du coup, il était plus bas sur l'eau. Et ça changeait un peu sa forme. Et pareil, quand il était déchargé, il était plus comme ça, quoi. Là, finalement, c'est un bateau déchargé.
D'accord. Et son tirant d'eau, c'est combien?
C'est 2,40.
Ah, c'est pas beaucoup.
C'est vraiment... Il n'a pas vraiment une quille... Il va dire une quille longue, ça, en bas c'est un peu un tonneau, quoi. Et c'est ça, ce qui est super, c'est que du coup il y a des, on appelle des bordées d'échouage, donc les bouts de bois qui sont le long, enfin ce qui fait la coque, il y a des bordées d'échouage et des bordées qui sont plus gros et qui permettent que quand on se penche et qu'on s'appuie contre ces bordées, ça abîme pas le bateau. Donc nous on fait ça assez régulièrement, soit on s'échoue contre un quai. Soit on s'échoue même dans de la vase.
J'ai vu que vous allez au Scilly. Au Scilly, vous pouvez vous échouer sur des plages de sable, par exemple.
Oui, 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 on peut s'échouer, ouais.
Bon, on va continuer, on va retourner dans l'endroit où on était tout à l'heure. Nous voilà à nouveau dans la cale. Enfin, la cale, c'est un salon, en fait. Hein. Enfin, un salon, c'est rustique, mais c'est très joli. Alors, maintenant, on va attaquer les compétences nécessaires parce que, Inès.
C'est le recrutement, enfin, moi, c'est la deuxième année que je fais, donc Gwen était déjà là.
Après, on se connaissait, donc j'étais très contente que ce soit elle. Mais du coup, Camille, qui vient d'arriver, ça, le recrutement, il s'est fait entre les personnes de l'association, les bénévoles de l'association, qui sont enfin, les personnes du bureau, et puis moi aussi.
Comment vous testez les, enfin comment vous faites indépendamment du CV évidemment. Quand vous voyez, vous mettez quelqu'un à la manœuvre, qu'est-ce que vous observez chez quelqu'un à la manœuvre ? Avec qui ça va être agréable de travailler, par exemple ? Peut-être Gwen ?
Je veux bien. Je pense que quand ils recrutent l'association, il y a un mélange de est-ce que tu as des différentes expériences, justement sur les vieux gréements ? Est-ce qu'il y a différentes compétences ? Enfin, je pense que quand on a un peu d'expérience de mécanique ou de bois, ou de ça les intéresse aussi. Et puis c'est sûr que si on connaît déjà les gréements auriques, ça aide un peu. Mais après, en soi, on peut apprendre assez rapidement. Enfin, je vois l'année dernière, le matelot qui était là, il n'avait pas forcément l'expérience des vieux gréements. Il en avait plus de mécanique ou autre, de pêche. Et c'est pas grave, en fait. Tu peux apprendre assez rapidement, en fait. S'il y en a au moins une ou deux personnes sur les trois, en quelques semaines... on peut assez vite comprendre comment on envoie les voiles, comment on affale, comment on sécurise. Après, c'est sûr que c'est souvent toi, Inès, je pense moi j'étais là l'année d'avant, mais qui va dire dans telle manœuvre, on voit bien, ou avec l'expérience, on se dit les risques, ils sont là. Donc, c'est sûr qu'à chaque manœuvre, on sait que les passagers, on les met à des endroits sécurisés. Après, c'est sûr que des manœuvres d'un bateau à l'autre, c'est même une arrivée de port, elles se ressemblent en fait. Enfin, on arrive toujours sur les mêmes amarres à peu près. Enfin, il y a des choses qui se répètent d'un bateau à l'autre. Et après, c'est les spécificités, c'est dur à dire, de chaque bateau. Donc là, de ce gréement aurique, c'est sûr que je pense que nous, on avait l'expérience déjà. Et après, c'est au fur et à mesure qu'on peaufine. Enfin, j'ai envie de dire.
Donc c'est des manœuvres, en fait c'est comme sur n'importe quel bateau, c'est hisser les voiles, les affaler, les border, les choquer, compétences moteur, j'ai entendu aussi, c'est vrai que c'est précieux, moi j'en ai pas sur mon bateau, c'est vraiment précieux. Camille, qu'est-ce que pourriez-vous ajouter à tout ce qui a déjà été dit là sur les compétences ? Il y a la cuisine aussi, il y a l'accueil des gens. Enfin.
Oui, je dirais qu'il y a peut-être un côté de polyvalence dans ce travail, où ça va être des manœuvres, ça va être de l'accueil du public, de travailler en sécurité avec du public à bord qui n'a pas forcément...
Alors travailler en sécurité, c'est toujours compliqué la sécurité. C'est quoi la sécurité exactement ? Enfin, sur ce bateau, c'est quoi ? Tout le monde a un gilet de sauvetage ? Tout le monde sait où sont les fusées
Oui, pour moi, c'est pas ça. C'est plus effectuer les manœuvres en sécurité. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément en tête et en conscience, et ce qui paraît normal, la force que peut avoir le bateau. Et du coup, c'est toujours veiller à ce que les gens nous aident, les gens participent.
En plus,
mais que ça soit en respectant certaines règles d'usage qui font que ça se passe bien et que personne...
Alors, compétence de capitaine, c'est Inès, est-ce que vous avez quelques mots là-dessus ?
Moi, je trouve que pour être capitaine, il faut être assez calme. Parce que moi, j'ai jamais aimé, ça m'est arrivé de naviguer avec des capitaines qui criaient, j'ai jamais trop aimé ça. Parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, moi, j'ai l'impression que même... nous, on arrive à se comprendre, juste on se fait des signes, on se regarde, on se dit « Ah, c'est... » Et je fais juste « OK ». Mais en fait, elles savent qu'il faut envoyer le phoque, et juste elles me regardent, et moi, je dis juste « OK » depuis la passerelle, par exemple.
D'accord. Bon, là, on voit le bateau, on voit les compétences. Concrètement, ce que vous faites, en fait, c'est déplacer ce bateau et amener des gens dessus. Les héberger aussi, il y a une part hébergement.
Oui, des fois, on fait des croisières où les personnes dorment à bord parce que c'est plusieurs jours de navigation, où on fait des escales. Donc après, nous, comme les manœuvres, les gens, ils participent aussi à faire à manger, la vaisselle. C'est un bateau vraiment où tout le monde participe à tout.
Alors, toutes les trois, c'est un métier que vous avez choisi. le métier, vous avez choisi le bateau aussi. Alors quel plaisir, c'est important, le plaisir au travail. Oui, quelle raison de travailler sur un bateau et qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur un bateau? Comment on s'agrandit, comment on s'épanouit, etc. Voilà le thème. Donc quel est le plaisir là, immédiatement comme ça de partir en mer un matin, d'aller soit dans la rade, soit jusqu'à Camaret, soit jusqu'au Scilly?
Pour moi, ce qui est le plus magique et pourquoi je fais ce métier-là, je pense, c'est de quitter la ville. oui, moi, je trouve qu'en mer, il y a un côté où on est bien, quoi. Il y a peu de sollicitations, il y a juste à faire fonctionner le bateau. Il y a quelque chose de très agréable, de très calme. De calme. Alors, après, quand il y a beaucoup de vent, oui, c'est pas forcément calme, mais... En tout cas, le fait d'être tout le temps dehors, moi, je pourrais pas faire un métier où je suis assise, où je suis devant un ordinateur. J'aime les choses qui sont physiques, j'aime bouger, j'aime être dehors, sentir les éléments.
Gwen, et pour vous, encore une fois, vous vous mettez en situation, vous embarquez le matin à bord, et puis c'est la journée de travail. Le plaisir qui vous attend.
Ouais, c'est sûr que en règle générale dans le métier de travailler sur des voiliers, voilà, il y a ce côté d'espace-temps qui est très différent. Le rythme, non, parce que finalement un bateau comme ça, on est à 5-8 nœuds, donc c'est quoi, c'est 10-15 km/h. Enfin voilà, donc il y a un rapport à la vitesse aussi, être sur l'eau qui est très différent d'être sur des bateaux moteurs ou autres et d'être en effet loin des problèmes de terrain. Et en plus, spécifiquement sur ce bateau, c'est quand même une association qui est très chouette. Enfin voilà, on a quand même une belle relation avec eux. Les passagers qui viennent, c'est quand même un tourisme assez doux. En général, ceux qui choisissent de venir sur un vieux gréement, je sais pas, il y a une relation qui est plutôt belle en général avec les gens qui viennent. Enfin, ils s'émerveillent, ils sont contents de participer. Il y a un bel échange en fait. Donc que ce soit le cadre, le bateau, l'assaut ou les gens qui viennent avec nous, c'est vrai que ça fait un ensemble harmonieux.
D'accord. Ouais. Et Camille, qu'est-ce qu'on peut ajouter donc
Qu'est-ce qu'on peut ajouter Non, mais je suis tout à fait reprendre. D'accord avec ce que les filles ont déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. Moi, oui, il y a vraiment ce côté, comme disait Inès, de travailler dehors. D'être dans un travail physique. Et après aussi, je pense qu'il y a aussi le côté où on a beau faire la même chose tous les jours, chaque jour ne se ressemble pas. Enfin, chaque sortie est différente, la météo peut être différente, les gens peuvent être différents, tu peux être différent. Enfin, ouais.
Ok, non, mais je comprends. Si je fais un résumé, tout est beau, là. C'est un peu le monde merveilleux, quand même. Il y a le bateau, il y a les gens, il y a la mer. Et l'écart de la ville, enfin, moi j'aime bien les villes, mais... Donnez-moi par exemple, on va prendre une chose que vous devez faire, qui est difficile, ça peut être n'importe quoi, mais qui va vous, même si c'est difficile, quand vous l'avez fait, ça va vous grandir, ça va être malgré tout au final peut-être un plaisir de le faire.
Eh ben, le mois dernier, on est allé à Paimpol se réfugier parce qu'il y avait beaucoup de vent de nord-est et on pouvait pas rester à Bréa.
25 nœuds au moins, non?
Ouais, à ce moment-là, il était même à 30 nœuds. Ouais. Donc on est allé à Paimpol, on a été extrêmement bien accueillis dans ce port. Mais il y a quand même deux écluses à passer qui se suivent, qui sont vraiment très serrées, il y a beaucoup de bateaux quand même. Donc c'était vraiment pas une manœuvre facile, et puis la place qu'on avait était petite, donc c'est pareil, voilà, fallait manœuvrer là-dedans, même si finalement quand on arrive à Paimpol, il y a déjà beaucoup moins de vent, mais le passage des écluses, l'éclusier qui était pas là, il y avait pas assez de place dans l'écluse, enfin bon.
Voilà. Et le port est tout petit, je me souviens, les manœuvres c'est très difficile là-dedans, non?
Oui, c'est un peu serré. Surtout qu'en fait, on a fait une première manœuvre, puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était juste devant la fête foraine. Donc, on a refait une manœuvre dans le port. C'était une journée de grosses manœuvres, après une grosse navigation. Donc voilà, c'est une journée où on finit. Il est très tard, mais on est content d'avoir fini, les passagers aussi, et du coup le repas du soir, on l'apprécie bien, et puis on apprécie aussi d'être arrivé dans un endroit abrité, et puis qu'on va plus se soucier de savoir si l'ancre va tenir, voilà. y a un peu ce contraste. C'est sûr que du coup, bah, c'était une journée intense, tout s'est finalement bien passé. Donc, on a d'autant plus de plaisir que s'il y avait bah, pas du tout de vent, des manœuvres très faciles, bah oui, il y a un peu ce truc. Entre nous, on est là, bravo, quoi. On a réussi.
Peut-être une autre expérience avec des passagers, par exemple. Des fois, ça peut. Enfin bon, je sais pas s'il n'y a jamais eu de problème avec les passagers.
On n'a pas trop de problèmes avec des passagers. Après, ça arrive qu'il y en a qui soient malades. Donc là, on essaye d'accompagner au mieux. On passe voir si ça va. On essaye d'accompagner un peu là-dedans. Et après, en général, les passagers, bah, il y en a toujours... En fait, si on en a 3-4 de motivés, donc sur, bon, sur une journée de nav, c'est 27 personnes. En croisière, c'est 11. Donc rien qu'avec 3-4 motivés, on arrive à bien manœuvrer. Mais c'est sûr que quand il y a du gros vent, non, comme on avait eu justement ce nord-est, là, on est content d'avoir des super passagers, super motivés, et ça permet de faire des manœuvres.
Bah nous, c'est sûr que déjà, nous, on ne choisit pas. Nous, les personnes s'inscrivent, tout le monde est bienvenu. Après, c'est plus... si quelqu'un fait un truc qui met en danger ou quoi, c'est plus notre faute, parce que dans ce cas-là, on l'a pas bien prévenu. On essaie quand même toujours d'être assez attentive où est-ce que les personnes sont, qu'est-ce qu'elles font. Enfin, et puis, avant de partir, il y a aussi... on leur explique vraiment comment tout fonctionne. Ouais. Pour qu'eux aussi, elles comprennent un peu, justement, les enjeux, à quoi ça sert... Qu'au moins les personnes comprennent un peu. Et puis après, souvent, d'elles-mêmes, les personnes qui ne comprennent pas, en général, elles ne touchent pas à des choses qu'il ne faut pas.
D'accord. Alors maintenant, on va essayer de parler de quelque chose qui est moins agréable. Je ne sais pas si ça existe sur votre bateau, ça doit exister quand même. Quelque chose qui n'est pas facile à faire et qui en plus n'est pas agréable et qui pourrait dévaloriser le métier de matelot ou de capitaine sur un bateau. Alors sur la rue Mingol, puisque vous êtes pas, on n'est pas sur un cargo ici. Hein.
Dans le travail de tous les jours, il n'y a pas quelque chose qui est forcément moins agréable. Là, je ne vois pas, mais après, c'est plus... ce métier-là, il est quand même intense. Le temps de la saison, on se dédie à ça. Et du coup, on a moins de temps pour autre chose.
Oui.
Et je sais que moi, en ce moment, j'ai des envies de planter, d'avoir un potager, tout ça. Ce n'est pas compatible avec. Voilà, c'est plus des choix, mais c'est un choix qu'aujourd'hui, que je fais et qui me va bien. Mais c'est des fois, j'y pense, je me dis, c'est sûr qu'on a un rythme qui est intense dans tous les sens du terme, quoi, qui est aussi intense dans ce qu'on vit, dans ce qu'on partage et tout ça.
Oui, c'est un choix exclusif d'une certaine manière, parce que vous êtes, le bateau vous isole plus qu'un travail au bureau, puisque vous ne rentrez pas tous les soirs à 17 ou 18 ou 19 heures.
Nous, on vit sur le bateau, donc c'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas trop d'autres chez nous.
On est en colocation pendant 6 mois. C'est sûr que là, on est en colocation finalement pendant 6 mois, enfin, on vit 24 sur 24 ensemble, donc là, c'est super parce qu'on s'entend très bien, on n'a même pas réussi à se friter.
Je confirme.
Donc c'est une, vie de troupe un peu, et ce n'est pas quelque chose qui vous dérange.
Oui, après, nous, on n'est pas, je vois les deux derniers mois, on a fait le tour des îles en Bretagne. Donc il y a aussi un côté où on change aussi complètement de, j'ai envie de dire, de terrasse. Non, mais on est toujours dans des endroits complètement différents à chaque fois. Donc c'est aussi à chaque fois une découverte. Donc on rencontre des gens. Enfin, on a l'avantage d'avoir notre maison, de vivre en colocation sur cette maison, dans cette maison, et de bouger avec notre maison, quoi. On n'est pas toujours au même endroit.
Plaisir du voyage, ouais. Si vous vous imaginez, vous projetez en arrière, avant de faire ce travail de marin carrément, de marin sur des vieux gréements, il m'a transformé de cette manière-là. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose comme ça à propos de ce boulot qui est quand même très, très particulier?
Ouais, je suis quelqu'un qui peut être assez impatient, impulsif, tout ça. Et ça, le bateau, comme disait Inès tout à l'heure, je pense que le meilleur moyen de... que ça se passe bien et que ça se passe correctement, c'est quand les choses sont faites calmement. Crier, s'exciter, s'énerver, ça amène rien de bon, et en plus ça met une espèce de tension sur le moment qui rajoute des difficultés. Donc ouais, je dirais le calme Et peut-être aussi que c'est un milieu qui m'a fait prendre de la confiance en moi.
Tout à l'heure, j'ai entendu que vous occupiez parfois du moteur. Quand vous réparez une panne, j'imagine que ça vous donne confiance. Ouais.
Oui, bah alors ça, de toute façon, sur le bateau, on travaille beaucoup à trois. Donc quand je répare le moteur, on le répare, quoi, du coup. Donc oui, puis ça, puis même au travers des manœuvres, de tout, en fait, c'est... Petit à petit, tu prends de l'expérience, les choses sont plus logiques, tu captes mieux les choses, si on peut dire, plus rapidement, tout ça. Et je pense qu'il faut aussi savoir se faire confiance, par moment. Et ça, c'est un truc... je sais pas si...
Si, bah le travail le provoque, quand même.
Ouais, oui, voilà.
Gwen, vous exercez depuis plus longtemps, je crois.
Dans la voile, oui, ça fait 10 ans, on va dire. Avant, j'étais monitrice de voile.
Ah oui.
Donc là, c'était plutôt école de voile, mais en croisière aussi. Et après, du coup, il y a eu le diplôme pour travailler en matelot, quoi. C'est sûr que c'est des métiers qui développent énormément de compétences, en fait, je trouve. Que ce soit... d'observation des nuages, de la mer, de pouvoir estimer un peu sa navigation, la préparer en amont, d'accueil de public, d'entretien des bateaux, de la compréhension, l'estime de soi, forcément, parce que plus on arrive nos manœuvres, plus on est content aussi. Le rythme, l'espace-temps, la vie en collectif dans un tout petit espace, dans un huis clos où on ne peut pas s'échapper. Enfin, voilà, donc...
Pour certains, ça serait quelque chose qui ne serait pas forcément toujours facile.
C'est ça. C'est soit on évolue dessus et ça nous fait grandir, soit ça ne nous correspond pas et on cherche autre chose.
Okay. Très bien. Et Inès, le métier de marin et et la fonction de capitaine de quelle manière ça a pu vous transformer, si ça vous a transformé?
Moi, je trouve que le métier de capitaine, la confiance en moi, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais matelot, je pense que je me reposais beaucoup, sur les décisions du capitaine. Et je trouvais ça assez reposant. Enfin, oui, c'est quand même assez reposant, quoi. Et là, quand je suis devenue capitaine, il fallait que je prenne des décisions. Donc, ça n'a pas été forcément toujours facile. Je pense que je peux être quelqu'un qui hésite beaucoup et ça me force à dire non, en fait, à un moment donné, on prend cette décision-là. C'est peut-être pas la meilleure possible. Pour moi, au moment où je prends la décision, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Mais après, il se passe plein de choses. Donc c'est de, à un moment donné, trancher, de dire faut prendre des décisions. Et puis après, sinon, je dirais aussi... Moi, je peux être assez solitaire. Je trouve que ce métier-là, il m'a aussi ouvert aux autres. Je trouve que, notamment sur Rumingol, on voit tout le temps des personnes complètement différentes, d'univers complètement différent. Donc ça m'a... J'ai l'impression d'être un peu plus tolérante.
Super. Un métier déjà où on peut prendre des décisions et on est... Enfin, vous n'êtes pas seul, vous êtes trois, mais bon, le capitaine est un peu seul parfois. Il y a des métiers où on prend une décision et c'est contrecarré par toute l'institution. Enfin bon, ça, là, c'est vous pataugez dans la semoule, quoi. Beau métier. Alors, pour en parler tout à fait, quand même, le travail que vous exercez s'exerce 6 mois dans l'année. Donc, ça vous oblige à ne travailler que dans ce métier que 6 mois. Alors, comment ça se passe les autres 6 mois? Est-ce que vous faites un autre travail? Comment ça se passe?
Ça dépend. Je sais que j'ai des hivers où j'ai travaillé. Moi, je travaille en soudure également, donc je peux travailler à côté. Mais après, il y a des fois aussi où, justement, le fait d'avoir un travail saisonnier, ça permet de faire des économies en amont et de pouvoir profiter de son hiver autrement, partir, faire ses projets à soi, personnels. Des choses que peut-être on a... auxquels on a moins le temps de penser, ne serait-ce que penser, et de se consacrer. Moi, je sais que j'ai déjà eu des boulots où j'avais un rythme beaucoup plus basique, on va dire, lambda. Un petit peu ce truc de rentrer tous les soirs à la maison, mais d'y être tous les jours, quasiment. Et ouais, là, je trouve que ça laisse du coup des larges moments qui sont pour soi et qu'on peut utiliser comme on veut et penser à des projets personnels ou développer d'autres choses à côté ou alors travailler ou alors partir en voyage.
D'accord. Voilà. Pour vous, Gwen, comment ça se passe l'hiver, hein?
Eh bien, pareil, ça dépend. Parce que j'ai. Bon, ça peut être des convoyages aussi, parce qu'il y a des convoyages hiver. Ça peut être. J'ai aussi fait de l'entretien chez les particuliers, donc ça m'est déjà arrivé de retourner un peu dans les jardins, couper du bois, faire de l'entretien différent. Et en effet, des fois, des projets plus personnels de voyage.
D'accord. Et pour vous, Inès, l'hiver, le potager, c'est l'été, c'est dommage. Il y a les poireaux, on peut voir les poireaux l'hiver.
Alors là, moi, ça, c'est la deuxième année que je travaille sur Humingol. Donc, en hiver, je suis plutôt à faire des projets à moi, être plutôt pas travailler, je dirais. Après, les autres fois où j'ai travaillé, j'avais vraiment enfin, c'était plus... voilà, je partais 3 mois. Après, j'avais 1 ou 2 mois de repos. Après, je repartais 3 mois. C'était beaucoup plus... Là, c'est vrai qu'en finalement, on a 6... l'année dernière, on a fait 7 mois de saison, presque. Et après, c'est du temps pour soi. Moi, j'aime bien... J'aime bien aussi ce contraste où après on fait complètement autre chose. Ça m'arrive aussi de retourner naviguer parce que j'aime ça, mais aussi faire autre chose. Ouais.
En fait, c'est pas un problème pour vous. Hein. C'est au contraire, même peut-être aussi fait partie du plaisir de faire ce type de travail.
Je pourrais pas travailler avec juste 5 semaines de congé. Par an, quoi, c'est pas possible.
C'est toujours du saisonnier.
Bon, tout le monde acquiesce, moi y compris, mais enfin bon, moi je l'ai fait. et si on parle de la dimension économique, alors, parce que vous êtes. Votre statut, c'est salarié de l'association, c'est ça, hein ?
Oui, nous on est les 3 seuls salariés de l'association, après c'est des bénévoles.
Et quand vous travaillez pas l'hiver, vous êtes aux ACIDIC ou.
Oui, là, en tout cas, l'hiver dernier, du coup, oui, j'étais au chômage, ouais.
D'accord. Pour conclure, on va imaginer un moment, vous discutez avec des gens que vous rencontrez dans les ports et qui disent « oulala, quel beau métier », etc. Femmes ou hommes, parce que bon, vous êtes 3 femmes sur un bateau, c'est plus rare que des hommes sur les bateaux. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une jeune fille, à un jeune homme qui a envie de faire ça ? Et qui pour l'instant n'a aucun diplôme, aucun diplôme spécifique pour ça. On va dire qu'il, je sais pas, il hésite entre la fac, une école d'ingénieur et devenir marin ou plombier, ou enfin n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour l'aider à savoir s'il se trompe pas, parce que bon, tout ce que vous dites là, ça plaît pas forcément à tout le monde. S'ils ne se trompent pas, et puis aller vers le bon lieu, la bonne formation, faire les bonnes choses pour y arriver.
Moi, je dirais déjà naviguer, quoi. Si la personne a envie, se demande si c'est le bon choix, de naviguer déjà dès qu'elle peut. Des fois, c'est possible avec des gens qui ont des bateaux, d'aller naviguer, mettre une annonce au port ou...
Et moi, sur n'importe quel bateau hein.
Oui. Il y a des sites internet aussi où on peut trouver.
S'il va sur un voilier, même de 7,50 m, il apprend quelque chose par rapport à ce boulot-là de marin.
Au moins, déjà, les repères d'où vient le vent, comment border les voiles, ça c'est pareil sur n'importe quel voilier. Même c'est très bien aussi de faire du laser ou faire de la voile légère parce que on se rend compte directement de quelle incidence a la voile quand on fait telle manœuvre. Et puis après, oui, moi je trouve que c'est de naviguer beaucoup. Moi ce que j'ai fait par exemple, c'est de partir presque un an à naviguer. Et puis en bateau stop et tout ça. Et je suis revenu en me disant, oui c'est sûr, je veux faire ça comme métier quoi. Mm.
C'est ça, il faut vérifier dans l'expérience si on aime vraiment ça. Ouais. Autre chose à ajouter
Non, c'est vraiment ça, ouais. Essayer tout type de bateau, tout type de météo, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ouais.
Alors peut-être pour finir quand même, on présente l'activité, moi j'en ai déjà parlé, mais donc le Humingol, c'est un bateau qui est basé à Brest, mais qui va à Douarnenez, qui va au Scilly, il faudra rajouter, hein, je peux dire des bêtises peut-être. qui emporte les passagers selon à la journée ou à la semaine ou plus. C'est pas le même nombre de passagers, évidemment. Et il y a un site web, on tape Rumengol, Rumengol, Google. Si non, c'est pas ça.
Non.
Bah, moi, j'ai tapé Rumengol. Bah,
oui,
bon.
Ça est tombé sur, bah, ouais, tant mieux. Et sinon, il y a le site internet de l'association, qui est antest.net, A-N-T-E-S-T.net. Donc là, on tombe direct sur tout l'historique, le programme. Là, c'est vraiment le site internet de l'asso. Et après, il y a la page Facebook aussi.
Ok, merci beaucoup Camille, merci beaucoup Gwen et Inès. Merci de m'avoir accueilli. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.